Après la Chine, le Canada ou le Mexique, c'est désormais la France qui est menacée de sanctions commerciales par le président américain.
La France a décidé de taxer nos entreprises. Et vous savez quoi, ce n'est pas bon. Ils n'auraient pas dû faire ça. Je leur avais dit, ne le faites pas, sinon je vais taxer votre vin.
Un symbole fort pour faire comprendre à Paris que sa taxe sur les GAFA ne passe décidément pas. Votée mi-juillet par le Parlement, la taxe s'élèvera à 3% du chiffre d'affaires réalisé en France. Une mesure qui vise à lutter contre l'optimisation fiscale. Désormais, les poids lourds américains du web, comme Facebook ou Amazon, seront obligés de passer à la caisse. Une décision qui révèle la stupidité de Macron, selon les termes utilisés par Donald Trump sur Twitter. Face à ces tensions, le ministre de l'économie français tente de calmer le jeu, sans rien céder sur le fond du dossier.
C'est notre intérêt collectif de parvenir à une juste taxation des activités digitales dans le monde. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est travailler étroitement avec nos amis américains à une taxation universelle des activités digitales.
Aujourd'hui, plusieurs pays européens souhaitent embrayer le pas à la France. L'Italie, l'Autriche, l'Espagne ou encore la Grande-Bretagne planchent aussi sur des taxes GAFA. Craignant un effet domino, Donald Trump veut marquer le coup en s'en prenant à la France et à son vin. La France peut-elle assumer cette stratégie économique? Donald Trump bluffe-t-il? Paris a-t-il les moyens de tenir tête aux Américains?
Et pour parler de ce nouveau coup de semonce, nous recevons ce soir Maxime Sbahi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur général du think tank Génération Libre. Et d'après vous, la France n'aurait pas dû prendre la décision unilatérale de taxer les GAFA. Elle se comporte, selon vous, presque comme le ferait Donald Trump. À vos côtés, Corentin Cella, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Et pour vous, la France essaye d'obliger ses partenaires européens à se positionner, mais cette tactique du bluff risquerait de se retourner contre elle. Et puis Marie Dansert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef adjointe du service économie au quotidien La Croix. À vos yeux, il y a peu de chances que la France recule. Elle a voulu envoyer un message politique. Alors pour commencer, Sonia, c'est la question 28 de nos internautes.
Oui, Trump va-t-il vraiment riposter? Quelles en seraient les conséquences pour la France? Corentin Cellin, est-ce que Donald Trump va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Est-ce qu'il faut comprendre aussi ses déclarations dans un contexte préélectoral aux États-Unis?
Alors oui, il faut le prendre au sérieux parce que pour cette fois-ci, il n'y a pas qu'un tweet. Il ne faut pas oublier que 15 jours avant le tweet, il y a eu le début d'une enquête qui a été débutée par l'administration Trump au nom de la section 301 de la loi sur le commerce de 1974 qui doit déterminer si la taxe française sur les GAFA est discriminatoire envers les entreprises états-uniennes. Et si cette enquête a une réponse positive, à ce moment-là, la loi autorise le président à prendre toutes les mesures pour faire cesser ces pratiques discriminatoires. Et ce qui s'est passé, on l'a vu récemment avec la Chine, c'est que le président des États-Unis pourra augmenter de manière, j'allais dire, à sa discrétion, les tarifs douaniers sur les produits français.
Donc il ira jusqu'au bout?
Alors, en tout cas, il a mis en place le processus institutionnel pour aller jusqu'au bout.
Marie Dansert, c'est l'exportation, les vins français exportés aux États-Unis, ça représente 1,7 milliard d'euros. Combien risquons-nous de perdre, d'après vous, dans cette affaire?
Alors, c'est le secteur des vins. En fait, sur 100 litres de vin que les Américains achètent, il y en a à peu près 30 qui viennent de la France.
Donc, ça nous rapporte 1 milliard.
C'est important. Voilà, c'est important. Il y a des droits de douane de part et d'autre, il faut le savoir. En France, ils sont fixés au niveau européen. Maintenant, ce qui est important, tout dépendra d'abord de l'importance de la hausse des droits de douane que déciderait Donald Trump. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le marché du vin, il est déjà compliqué à conquérir, entre guillemets, aux États-Unis, parce qu'il y a une réglementation qui date de la Prohibition et qui fait que vous avez toute une série d'étapes à franchir. Il y a beaucoup d'intermédiaires pour vendre aux États-Unis, donc le prix du vin, en fait, aux États-Unis, il est déjà énorme. Donc tout dépendra du niveau, en fait, de taxation supplémentaire que décidera Donald Trump.
Alors si Donald Trump veut taxer le vin, c'est justement pour faire face à cette taxe GAFA. Et la taxe GAFA, c'est votre chiffre du jour, Claude?
Oui, 400 millions, comme les 400 millions d'euros que la France espère récupérer en taxant les grandes entreprises du numérique. Question pour vous, Maxime Sbahi, est-ce que ça vaut le coup de se fâcher avec Trump pour 400 millions?
Non.
Non, c'est pas une question de se fâcher avec Trump, c'est qu'une question de cette taxe GAFA. Moi, je trouve qu'elle est inefficace, elle est naïve, elle est très mal faite. Et surtout, le timing est mauvais. C'est-à-dire que vous avez l'OCDE en ce moment, 129 pays, qui est en train de réfléchir depuis des années à une refonte totale de la fiscalité des multinationales. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, c'est une approche très multilatérale. Les Américains sont pour une fois d'accord. Donc, on essaie d'avancer tous ensemble. Ce que fait la France, c'est qu'elle a décidé d'y aller tout seul. En cavalier.
C'est injuste. Ce que fait la France, qui a essayé de rattraper le coup après que l'Europe, qui était sur le point d'adopter cette taxe sur le chiffre d'affaires, a canné parce que notamment l'Irlande dépendait.
Parce qu'il y a certains pays en Europe qui ne sont pas du tout d'accord. L'Irlande. Parce qu'ils voulaient justement attendre que l'OCDE, la Suède aussi par exemple, ou la Finlande, l'OCDE allait avancer là-dessus. Ils voulaient qu'il y ait un accord global avec tout le monde à bord plutôt que d'avancer chacun dans son coin. Et donc quelque part, la France a fait ce qu'on reproche à Trump, c'est-à-dire de faire de l'unilatéral, d'imposer ça de son point de vue, de son côté, sans attendre. En fait, les conclusions de l'OCDE, le G7 et le G20 à Chantilly et celui à Biarritz, on voit qu'on s'approche de plus en plus d'un accord qui serait historique. C'est-à-dire qu'on est en train de refaire toute la fiscalité des multinationales au niveau mondial. Le numérique, c'est ça. Le numérique nous oblige à repenser la fiscalité. Plutôt que d'y aller, de pêcher par orgueil ou par impatience, comme l'a fait la France, attendons tout le monde et changeons les règles ensemble plutôt que le faire tout seul.
Et Marie Dancière.
Simplement pour rappeler le contexte, effectivement, il y a un timing un peu compliqué, mais bon, je me suis replongée dans les archives. Ça fait 2 ans que la France a proposé avec l'Allemagne et d'autres pays européens de se lancer dans ce projet, 2 ans exactement, et en fait les Allemands se sont retirés du projet, d'autres pays se sont retirés, donc il y a eu une forme d'impatience, mais disons 2 ans c'est quand même long. Et la loi, là, vient d'être adoptée, en fait, juste avant, une semaine avant le G7 de Chantilly. Donc le timing est peut-être pas idéal, mais on peut comprendre une forme d'impatience. Il y avait aussi un signal politique du gouvernement français avant les élections européennes, effectivement, pour dire, voilà, nous, puisque l'Europe ne fait rien, on agit.
Je rappelle juste le G7 de Chantilly, c'était le G7 des ministres des Finances, hein, pour s'organiser par rapport au G7 qui va arriver à Biarritz fin août. Mais Corentin Sella, est-ce que finalement, aujourd'hui, la France, elle peut résister aux pressions de Donald Trump?
Alors, si on prend un exemple récent, c'est sur la crise iranienne. On a bien vu que par la menace de sanctions économiques déployées par les États-Unis, l'administration Trump est arrivée à faire que toutes les entreprises françaises ont détalé d'Iran lorsque les États-Unis ont quitté l'accord nucléaire de Vienne de 2015. Donc, c'est très difficile de résister aux sanctions économiques des États-Unis. Et d'ailleurs, dans le tweet de Trump, si on prend le débat qu'il y avait là sur unilatéralisme ou multilatéralisme, il y a une façon pour Trump de dire aussi à Macron « Je suis plus fort en unilatéralisme que toi, et le souverain, c'est moi, le patron, c'est moi. »
Est-ce qu'on est, avant le G7, est-ce qu'en adoptant cette taxe, qui était aussi un projet européen, qui a été abîmé, parce que le front européen a été fissuré, est-ce que la France peut servir d'exemple, de modèle, poser une marque et d'autres pays peuvent la rejoindre? Est-ce que ça compte aussi dans les négociations internationales qu'un grand pays, la France, taxe le premier?
Oui, alors c'est effectivement sans doute l'espoir de l'administration française. Simplement, Donald Trump, lui, qui ne veut pas cette taxe sur les GAFA, parce qu'il estime aussi que c'est à lui de sanctionner les GAFA, il ne faut pas oublier qu'il est en lutte contre les GAFA. Le même jour que ce tweet, il a fait un tweet, hein, il faut le rappeler, pour dire à Apple, si vous continuez à construire vos Mac Pro en Chine, eh ben, on vous taxera comme des produits chinois. Donc revenez aux États-Unis. Donc lui, il est en guerre contre les GAFA, mais il dit, c'est à moi de m'en occuper, ce sont des GAFA états-uniens, c'est à moi de m'en occuper, America First. Et pour finir de répondre, oui, ça peut montrer un exemple à l'Europe, sauf qu'il va falloir tenir contre Trump et les États-Unis. Et est-ce que la France a la surface économique, la puissance économique? Malheureusement, les exemples récents, ce qu'ont fait à la crise iranienne, semblent plutôt démontrer que non.
Alors tenir tête justement aux États-Unis, c'est ce qu'a essayé Bruno Le Maire hein, ce week-end à Chantilly, et vous allez entendre justement la réponse avec vous, Klaus Kowicz.
Alors Bruno Le Maire qui avait dit que la France appliquerait sa taxe, on l'avait entendu en début d'émission, puis là on va l'entendre en anglais, Bruno Le Maire, ministre donc d'un pays dont le président a été traité à peu près de stupide. Il ne déclare pas la guerre, il met plutôt, entendez-le, de l'eau dans son vin, notre ministre.
Our American friends. Nos amis américains ne devraient pas comprendre la décision prise par la France d'avoir sa propre fiscalité nationale des activités numériques comme une volonté de cibler les entreprises américaines. Ce n'est pas le cas. Nous ne voulons pas cibler les entreprises américaines.
Bon, Bruno Le Maire explique aux Américains en anglais qu'il ne faut pas confondre GAFA avec les intérêts des États-Unis. J'ai juste une question, Marie Dancère. Est-ce que les GAFA, monsieur Apple, monsieur Amazon, monsieur Facebook, sont allés voir monsieur Trump en disant « protégez-nous de l'ogre français » ou est-ce qu'il y est allé tout seul?
Alors, comme disait Corentin, c'est paradoxalement, Donald Trump est plutôt en opposition aux GAFA, qui se sont opposés à lui avant la campagne, pendant la campagne et après l'élection.
Sur le traitement des migrants, sur les frontières.
Voilà, sur toute une série de sujets.
Mais donc, je reviens sur cette question. Est-ce que là, sur ce sujet de la taxation,
non. Ils ne sont pas allés le voir, ils sont de toute façon suffisamment puissants. Moi, je voudrais quand même rappeler, on dit Bruno Le Maire a mis de l'eau dans son vin. Le discours de la France a toujours été de dire on cherche à établir une taxation sur les géants du numérique. Donald Trump répond, vous voulez taxer nos entreprises américaines. Il entretient une confusion. Évidemment, les géants du numérique, aujourd'hui, sont majoritairement américains. Mais si demain, un Alibaba prend de l'importance en France, un géant chinois, il sera à son tour taxé. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée, une simulation, qui montre qu'à peu près 30 entreprises seront taxées en France avec ce système, dont des entreprises européennes et des entreprises chinoises. Il ne faut pas, je pense, rentrer dans la confusion que Donald Trump essaye de faire.
Maxime Bailly, j'ai souvenir de Google qui avait dit il y a quelques mois qu'ils étaient prêts, Google, à payer cette taxe française. Est-ce que, comme Donald Trump, vous ne défendriez pas des GAFA qui ne demandent pas à être défendus de notre taxe?
Non, je pense que la fiscalité des GAFA, c'est important et qu'il faut effectivement repenser donc, toute la
Google a dit qu'il paierait, hein.
Oui, bien sûr. Mais cette taxe GAFA, si vous regardez exactement ce qui se passe, c'est que la France, elle va taxer la revente des données personnelles. Pour moi, c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que c'est ces données personnelles-là qui nous appartiennent, qu'on produit tous ici quand on est sur nos smartphones, qui vont alimenter tout ce nouveau écosystème numérique. Mais nous, on n'en voit pas du tout ni la couleur, on ne sait pas comment elles sont utilisées, on ne sait pas où elles vont, on ne sait pas si c'est les Américains qui utilisent ça, et on n'en touche pas le bénéfice. La fiscalité, c'est secondaire par rapport à ça. Ce qu'il faut vraiment mettre en place, c'est un cadre juridique nouveau, la propriété privée des données personnelles, qui redonne le pouvoir aux internautes, qui rééquilibre le rapport de force entre les internautes et les plateformes, et qui fasse une répartition plus juste de la chaîne de valeur numérique. Ça, c'est le vrai sujet. La taxe GAFA, à côté de ça, si vous voulez, c'est une nouvelle économie, il faut une nouvelle régulation. La taxe, c'est une régulation qui est naïve et inefficace. Parce que finalement, c'est l'État qui vient se servir sur les données personnelles, mais les données personnelles, c'est nous qui les produisons.
Dites ça au boulanger qui paye 14 fois plus d'impôts en proportion que Amazon ou que Facebook.
Oui, mais le boulanger, quand il vend sa baguette, si vous voulez, il la produit, il vous la vend et c'est lui qui récupère le profit de la baguette. Vous, quand vous avez vos données personnelles qui sont aspirées par les GAFA, vous n'en voyez pas la couleur. Vous ne savez pas du tout. La valeur, elle ne vous revient pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait inverser dans tout cet écosystème numérique. C'est très important de mettre ça en place.
Alors, pour l'instant, en fait, si nous sommes là ce soir, c'est parce que justement la France a voté hein, une taxe GAFA. Sonia, elle est un peu seule, non, pour l'instant, la France?
Il y a quand même quelques pays européens hein, qui la soutiennent. L'Italie, l'Espagne, l'Autriche et le Royaume-Uni sont favorables à cette taxation. Des processus hein, législatifs ont même été lancés. Pour le moment, aucun n'a abouti. L'Italie a adopté une loi, mais les décrets n'ont pas encore été publié. Le sujet n'est pas nouveau, hein, on en a déjà parlé. Les Européens n'ont jusqu'à présent pas réussi à s'entendre. En mars dernier, vous l'avez dit, le projet de taxation européenne a été bloqué, notamment par l'Irlande, mais aussi par la Suède, le Danemark et la Finlande. L'Allemagne, inquiète pour ses exportations, a également montré certaines réticences. C'est donc un nouveau test pour la cohésion de l'Europe face à l'Amérique de Trump. Dans ce contexte, est-ce que cette initiative de la France, finalement, on peut la comprendre comme une tentative d'accentuer la pression sur ses homologues européens? J'ai l'impression que c'est ce que vous entendiez tout à l'heure. Et si c'est le cas, est-ce que ça peut marcher?
Oui, bien sûr, ça peut marcher. D'ores et déjà, ce sera un sujet majeur du G7 des chefs d'État cette fois-ci à Biarritz à la fin du mois d'août. Donc oui, ça peut marcher. Mais tout ce qui est en jeu maintenant, c'est que Trump est entré dans la bataille. Et pour Trump, c'est une question à la fois politique, parce que, encore une fois, sa raison d'être. Hein. C'est je suis nationaliste économiquement, je défends les entreprises de mon pays, même si après je les accable de mon côté, mais c'est moi qui les accable. Et deuxièmement, je suis en lutte aussi contre les impôts, contre les régulations, parce que je suis un républicain libéral. Donc pour lui, c'est autant de marqueurs politiques. Et il vient d'engager la bataille. Et jusqu'à présent, on a rarement vu Trump vouloir reculer sur des batailles. Et en plus, il y a une petite dimension aussi où on voit bien dans le terme même de foolishness, c'est-à-dire de bêtises, qui veut en quelque sorte faire l'éducation d'Emmanuel Macron une fois de plus. Et donc, est-ce que lui est prêt à abandonner ce combat? Ça, c'est pas sûr.
Maxime Veil.
Oui, non, juste, il faut quand même se rappeler qu'en dehors de ses tweets et de ses effets de manche de Trump, on sait que c'est comme ça. Je veux dire, il y a 50 tweets qui sont partis le même jour. Ouais. Il attaque tout le monde, tout le temps, ça marche comme ça. Il y a la réalité aussi de la diplomatie, justement, et encore une fois, de l'OCDE, des 129 pays qui sont en train d'avancer très proche d'un accord historique sur la fiscalité des multinationales. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans les G7, là où Trump n'est pas, là où on ne fait pas le